Radio France Internationale, il est 6h30 à Kinshasa, 5h30 en temps universel. L'actualité africaine avec Édouard Dupénoise. Bonjour Édouard.
Bonjour.
La RDC à la une avec l'épineuse question du salaire des fonctionnaires dans les provinces en proie au M23.
Comment faire pour que les agents de l'État soient correctement payés alors que les banques sont fermées? Est-ce qu'il faut les régler par mobile? Qui est en charge de leurs soldes? Kinshasa et les gouvernements locaux du Nord et du Sud qui vous tentent de résoudre cette équation. Une vingtaine de dossiers déposés pour la présidentielle au Gabon. Il est trop tard maintenant pour se porter candidat en vue du 12 avril. Une audition dans les formes, oui, mais une garde à vue prolongée pour Olivier Monodji, journaliste tchadien, notamment correspondant de RFI, qui ne sait d'ailleurs toujours pas ce qui lui vaut de dormir en cellule depuis mercredi. Gérald Darmanin, ministre français, se rend au Maroc. Il y rencontre aujourd'hui son homologue au ministère de la Justice. Paris et Rabat rivalisent de mots doux et d'amabilité. Dans ce journal encore, les clichés intimistes de Rizassoul, photographe malgache tout en ombre et en lumière. Il s'expose à la Fondation H à Paris. Et puis la lutte contre soi-même, le combat des fidèles musulmans contre l'addiction à la cigarette. Certains choisissent le mois de Ramadan en ce moment pour faire face pour de bon à la tentation du tabac. Dans les provinces du Nord et du Sud, Kivu l'a plongé dans l'inconnu pour les agents de la fonction publique. Ça fait 40 jours que Goma est tombé sous le contrôle de la FCM23 soutenue par le Rwanda. Pratiquement 3 semaines pour Bukavu et les banques restent fermées, non seulement dans ces deux capitales provinciales, mais aussi dans de nombreuses autres localités de ces provinces. Comment donc assurer le salaire des fonctionnaires? Kinshasa réfléchit à plusieurs options, dont le paiement via mobile, tandis que le groupe armé, qui prétend toujours mettre en place une administration parallèle, n'a rien annoncé sur le sujet. Défi d'autant plus complexe, patient Ligodi, que tous les fonctionnaires ne sont pas payés de la même manière.
Les fonctionnaires des provinces sont payés grâce aux recettes locales. Mais aujourd'hui, ces revenus échappent à l'administration officielle. Le gouvernement provincial du Sud Kivu s'est délocalisé à Uvira et celui du Nord Kivu à Beni suite à l'offensive de l'AFCM-23. Depuis ces villes, ils tentent de fonctionner mais n'ont pas la main sur l'ensemble des recettes, ce qui complique encore plus la situation. Rien que pour le Sud Kivu, la masse salariale des fonctionnaires provinciaux atteint environ 900 000 dollars par mois. À cela s'ajoute un autre défi, tous les fonctionnaires ne relèvent pas de la gestion provinciale. Certains dépendent directement de Kinshasa où des solutions sont à l'étude. Comment leur envoyer de l'argent sans risquer de financer indirectement l'AFCM23 au ministère de la fonction publique? L'une des pistes envisagées est d'abord une mise en disponibilité d'office, ce qui signifie que l'absence au travail ne conduira pas à des sanctions administratives. Une autre problématique concerne les agents qui ont fui leur zone d'affectation, certains ayant même trouvé refuge dans des pays voisins. À Kinshasa, on réfléchit à un paiement via la téléphonie mobile, mais cette option nécessite des préalables logistiques avant d'être mise en œuvre. De son côté, l'AFCM23 affirme travailler sur la question des salaires, mais aucune décision officielle n'a été annoncé.
Patient Ligodi, la RDC où le bilan de l'attaque contre le village de Tambi, territoire de Massissi, s'élève à au moins 43 morts selon plusieurs sources locales. Il y a 3 jours, des miliciens Wazalendo alliés aux militaires congolais auraient pris pour cible ces villageois en les accusant d'avoir collaboré avec le M23. Une vingtaine de candidats potentiel pour l'élection présidentielle gabonaise du 12 avril. Les postulants avaient jusqu'à hier 18h pour déposer leurs dossiers qui doivent maintenant être étudiés avant qu'on ne connaisse la liste définitive. Plusieurs figures connues sont déjà sur les rangs. Le leader syndical Jean-Rémi Yama, Pierre Claver Maganga Moussavou ou Alain-Claude Bilibinzé. Mais aussi, donc, comme annoncé, Magali Lagrange, le tombeur de l'ex-président Bongo.
Comme il l'avait annoncé en début de semaine, Brice Clotaire-Oligui Nguema a bien déposé son dossier de candidature hier. Le président de la transition a précisé s'être mis en disponibilité de l'armée, condition fixée par le code électoral gabonais pour qu'un militaire puisse se porter candidat. Parmi les dossiers déposés figurent aussi ceux de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, du syndicaliste Jean-Rémi Yama, figure de la société civile gabonaise très critique du régime d'Ali Bongo, sous lequel il a été emprisonné à 2 reprises, et de Pierre Claver Maganga Moussavou, le fondateur du PSD, qui a déjà brigué la présidence à 4 reprises. Il est toutefois âgé de 72 ans. Les textes stipulent que les candidats doivent avoir entre 35 et 70 ans. Albert Ondoosa, qui s'était présenté face à Ali Bongo à la présidentielle de 2023, ne figure pas parmi les candidats cette fois-ci. Les dossiers doivent maintenant être étudiés avant la publication de la liste des candidats retenus. Plusieurs d'entre eux demandent un petit délai supplémentaire pour pouvoir obtenir les documents manquants, notamment la quitte compétences du Trésor prouvant que la caution de 30 millions de francs CFA a bien été déposée.
La campagne s'ouvre le 29 mars pour l'élection du 12 avril. Une garde à vue prolongée au moins jusqu'à demain matin pour Olivier Monodji, le journaliste tchadien, directeur de publication du journal Le Pays. Par ailleurs, correspondant de RFI arrêté en milieu de semaine et gardé depuis dans les locaux de la police judiciaire de N'Djamena. Il a finalement pu être entendu hier pendant 4 heures par 3 officiers de cette police judiciaire. Son avocat évoque un contexte plus serein que la veille où l'audition avait tourné court. Malgré tout, maître Alata Amos déplore toujours de ne pas savoir ce qui est reproché précisément à son client, ainsi que le fait que sa garde à vue ait été prolongée.
Il n'y a que le procureur de la République seul qui peut nous expliquer, parce que là, il a des conseils, nous sommes ses conseils, il représente suffisamment de garanties de représentation, mais malheureusement, on le garde quand même dans les locaux de la police judiciaire. Ni la police judiciaire n'a été capable de nous dire, nous lui reprochons telle infraction. Il n'y a que le procureur de la République qui peut nous dire pourquoi il l'a arrêté. Et nous l'attendons de pied ferme le lundi pour savoir qu'est-ce qu'il reproche à notre client. C'est aberrant de savoir que dans ce siècle-là, on arrête encore des journalistes. Et c'est vraiment d'un autre âge. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est impératif qu'on le relâche purement et simplement.
Maître Alata Amos, avocat d'Olivier Monodji, le journaliste qui doit donc être déféré demain matin devant le procureur du tribunal de grande instance. J'ajoute que l'UJT exprime à son tour son indignation. L'Union des journalistes tchadiens, elle parle d'une arrestation arbitraire et d'une grave atteinte à la liberté de la presse. Elle demande la libération immédiate d'Olivier Monodji ainsi que la restitution de son matériel. Vous écoutez RFI, 6h37 à Paris, une heure de moins à Rabat, le Maroc, où se rend aujourd'hui le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, qui doit évoquer avec son homologue les questions de coopération judiciaire entre les deux pays et la lutte conjointe contre le terrorisme ou encore le trafic de stupéfiants. Tout cela dans un contexte où la relation Maroc-France ressemble à une lune de miel, François Imferkataji.
Signe supplémentaire du réchauffement diplomatique entre la France et le Royaume du Maroc, le ministre de la Justice Gérald Darmanin va rencontrer son homologue à Rabat, Abdelatif Wahbi. Les deux hommes devraient évoquer ensemble les questions de lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé dans un contexte de renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays. Ces dernières semaines ont été marquées par des succès à cet égard. À la fin du mois dernier, deux hommes soupçonnés d'être les complices du narcotrafiquant Mohamed Amra ont été interpellés à Marrakech sur demande de la France. Ils auraient participé à mettre sur pied l'opération qui a mené à l'évasion de Mohamed Amra et qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires français au mois de mai dernier. Dans la même veine, en janvier dernier, celui que Gérald Darmanin considère comme l'un des plus gros narcotrafiquants de France, le dénommé Félix Bingui, dit le chat, chef présumé du clan Yoda, a été extradé vers la France 10 mois après son arrestation au Maroc. Le sujet de la délivrance des laissez-passer consulaires, documents permettant à la France d'expulser les immigrés illégaux ne disposant pas de passeport, pourrait aussi être abordé. Au mois d'octobre dernier, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait annoncé à Rabat qu'un accord avait été trouvé entre la France et le Maroc pour, je cite, « raccourcir les délais d'expulsion des personnes sous OQTF ». François Imferkataji, Casablanca, RFI.
C'est une relation qu'il s'agit de reconstruire cette fois entre l'AES et la CDAO et c'est John Dramani Mahama qui tente sa chance. Le nouveau président ghanéen effectue 3 déplacements en 3 jours dans les capitales de l'Alliance des États du Sahel. Il était à Bamako dès hier où il s'est entretenu avec le président de la transition, Assimi Goïta. On y revient en détail dans notre prochain journal 6h30 en temps universel. Madagascar rouvre ses liaisons maritimes avec les Comores, marchandises et voyageurs. Ces liaisons étaient fermé. Depuis le mois d'octobre, Antananarive disait se méfier de l'épidémie de choléra dans l'archipel voisin, même si d'autres points de tension existent en fait entre les deux pays. Vous en lisez le détail sur notre site RFI.fr. On continue de regarder Madagascar, mais dans l'œil d'un photographe maintenant. Ritzasoul, photoreporter, certes, lauréat du prix World Press il y a 3 ans, mais ce ne sont pas ces clichés de presse que l'on observe ce matin, plutôt son regard d'artiste. Ses visages et ses ambiances qu'il capture dans les bars, dans les lieux clos et un peu obscurs, les clubs ou encore les cinémas de la capitale malagasse. La Fondation H, à Paris, a sélectionné une 60aine de tirages et Ouda Ibrahim nous les donne à voir.
C'est une vie vibrante la nuit dans les lieux de rassemblement de la capitale malgache que le photographe saisit, souvent dans des espaces intérieurs, de cinéma, des bars, des clubs ou autres lieux de rassemblement. Le photographe Ritzasoul n'hésite pas à trop s'approcher de ce sujet afin de capter des fragments de vie, des scènes ouvertes à la nuit, à l'inconnu et à l'aventure. Marie Doumerc, responsable de la galerie.
Ici, dans l'espace parisien de la Fondation H, on présente un corpus d'une soixantaine d'images prises entre 2004 et 2024 sur Madagascar. L'idée de cette exposition est d'apporter un regard neuf dans la pratique du photographe, de se pencher sur les esthétiques, sur les lumières, les vibrations de chaque image, sans forcément regarder le contexte dans lequel les images ont été prises.
L'exposition montre surtout l'autre travail de Ritza Soul, vainqueur du World Press en 2022, des photos d'art loin du photojournalisme qu'il pratique. C'est donc un travail plus intime et plus personnel qui est exposé, avec des photos qui, selon l'artiste, transmettent une sensation fugace et insaisissable.
Les clichés de Ritza Soul à voir à la Fondation H à Paris jusqu'au 17 mai prochain. Le jour, enfin, ne va pas tarder à se lever sur un nouveau dimanche de jeûne pour les fidèles musulmans en plein mois de Ramadan. Et ce que l'on vous propose pour terminer ce journal, c'est d'explorer une facette particulière de la lutte que mènent certains des croyants, celle contre la cigarette. Parce que le jeûne concerne aussi le tabac. Certains essayent de mettre à profit ces semaines d'abstinence pour se passer pour de bon de la nicotine. Une difficile lutte contre ses propres addictions que nous raconte notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise.
De bon matin, Mohamed Ali, 29 ans, a du mal à ouvrir l'œil. Une semaine après le début du Ramadan, ce mécanicien peine encore à se passer de sa cigarette matinale accompagnée de café. Habituellement, il est à un paquet et demi par jour.
C'est vrai que ce que je vais consommer le soir après le repas de rupture du jeûne, ça n'a rien à voir avec ma consommation habituelle. Je ne vais pas compenser le fait de m'être privé pendant la journée. Mais le manque reste présent, même si j'essaye chaque année d'arrêter complètement. J'arrive juste à diminuer pour le moment.
Ayman, vendeur de légumes, veut aussi arrêter, mais dit manquer de motivation.
Bon, après la rupture du jeûne, j'enchaîne 5 à 6 cigarettes, mais vu que je dois me coucher tôt à cause du travail, je ne fume pas tout au long de la soirée, et lorsque je me lève, il est de nouveau temps de jeûner. Alors, corps Ramadan, je peux m'enfiler jusqu'à 2 paquets de cigarettes entre la soirée et la journée.
Nizar Bahri, 55 ans et médecin, s'est lancé un défi. Fumeur depuis 30 ans, il souhaite vraiment arrêter définitivement, après avoir fait une séance d'acupuncture la veille de Ramadan, pour se sevrer.
Au Ramadan, on est obligé de ne pas fumer pendant la journée, et donc parfois on se dit, si on peut arrêter 12 heures de temps, et pourquoi pas 24, et pourquoi pas 48, et pourquoi pas une semaine, et pourquoi pas un mois, et pourquoi pas définitivement.
Après plusieurs tentatives et rechutes par le passé, il est confiant cette fois. Ce dimanche marque son 10e jour, sans aucune cigarette. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
L'acupuncture pour se passer de la cigarette, pourquoi pas. On y revient aussi dans notre prochain journal à 7h30, heure de Paris. Pour l'heure, à Paris et à Tunis, il est 6h43. RFI Matin continue et je vous laisse avec Marion Cazanov.
Merci Edouard Dupénoit, à tout à l'heure. À suivre sur RFI, la revue de presse de Catherine Potet, en feuillette les hebdomadaires français ce dimanche. À suivre